Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. Épisode 179, mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Ah, il Pascal fait chaud, Plante, hein? Avez-vous lu ça sur Facebook? Il paraît qu'il fait chaud.
Ah, il paraît qu'il fait chaud. Hey, d'ailleurs, si jamais on entend un petit fan là, dans mon micro, ben, c'est la vie. Deal with it. Parce
ouais,
que,
moi, j'ai laissé la porte ouverte. Fait que si vous entendez du monde se tirer du gun dans le coin de Villeray, là, c'est chez nous.
Ouais, c'est ça. Puis je suis en bobette, puis en camisole California, vert turquoise, puis j'enregistre. Yellow bitches. Ouais.
Mais tu sais, c'est sûr qu'après toutes ces années, c'est dur d'enregistrer sans entendre tous nos nombreux fans. Donc... Oh. Pascal Plante, wow. Pascal Plante, nouveau excellent. Podcast, nouveau podcast, nouveau ouais. Voyage. Cette fois-ci, tu reviens tout juste de Colombie.
Ouais, je reviens de Colombie et de São Paulo aussi. En fait, je suis allé au Brésil avant. Fait que non, un beau petit périple là. Je vous fais un compte rendu rapide là. Coudonc, c'est rendu coutume. Mais là par contre, c'est peut-être une des dernières fois que j'accompagne le film. Le film, il va continuer à rouler encore. On a des festivals. Jusqu'à la fin de l'année, mon Dieu, puis peut-être même jusqu'en 2019. Mais j'ai un autre projet que je suis en train de mettre sur pied, puis le travail m'attend plus, là, puis c'est un peu difficile avec tous les voyages, en fait, de faire avancer les dossiers comme j'aimerais. Fait que c'est vraiment un très petit violon là, qu'il faut qu'on joue pour moi en ce moment.
C'est pas facile, hein, voyager à travers le monde pour présenter son film dans des salles.
C'est ça, vraiment.
On veut des scoops pour ton nouveau projet. Ah. Des scoops.
Ouais, des scoops. Ben, écoute, des scoops. Mais là, déjà, j'ai eu des sous du Conseil des arts du Québec puis de la SODEC pour l'écrire. Fait que c'est quand même un peu... C'est pas complètement... En dessous du radar, le projet sur lequel je travaille. Je travaille sur un film qui s'appelle provisoirement Nadia Butterfly. Et c'est un film avec des nageuses olympiques. Et c'est sur une nageuse qui prend sa retraite après les Jeux olympiques. Et donc, qui perd la carte avec toutes les parties de fous de débauchés des Jeux. Fait que, ouais, Spring Breakers au monde des athlètes de la natation un peu. Là,
c'est j'ai un titre pour toi.
Oh shit!
Ouais, vas-y.
Tu sais, on dit la dépression postpartum. Là.
Ouais, ben le blues post-olympique.
Tu peux appeler ça.
C'est un vrai quelque chose, mais ouais. Vas-y, ouais.
Ben le post-olympoum.
C'est vraiment vendeur, en fait. Je vais en parler à mon distributeur. Non. Bon, ben sur cet enthousiasme. Fait que São Paulo, c'était en fait un focus de cinéma québécois. Puis Colombie, c'est un focus de cinéma canadien, majoritairement québécois.
Ben oui, c'est fou. Le fait que c'est vraiment ça, c'est des événements spécialisés. Là, comme, parce que au Mexique, c'est un ancien... C'est un Québécois qui réside maintenant au Mexique qui a lancé cet événement-là.
Non, mais au Brésil.
Au Brésil, pardon.
Ben non, il n'y a pas de stress, mais...
je pense que je mélange. Il y a également un événement de cinéma québécois au Mexique, il me semble.
Là, Québec lui, Ciné, en fait, ouais. C'est ça. Donc oui, t'es pas fou. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a comme beaucoup de focus comme ça, Québec, Canada. Puis souvent, c'est un peu en partenariat justement avec la SODEC ou avec Téléfilm, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est souvent, c'est un peu pilote aussi, comme au Brésil, c'était la première édition. En Colombie, c'était la deuxième édition. Fait que c'est ça, je suis allé aussi à Bogota, en Colombie. Puis l'année dernière, en fait, il avait invité, pour la première édition de la Colombie, il avait invité Louis Bélanger avec Les Mauvaises Herbes. Mm-hmm. Fait que même combat, cette année, c'était moi et non Louis Bélanger. puis c'est ça, en fait, c'est parce qu'on m'a fortement conseillé par Savé d'y aller, parce que mon film sort en Colombie en salle. Il a été acheté par la compagnie de distribution Babia. Ouais. Puis le film sort le 19 juillet, fait que juste après la Coupe du Monde de soccer.
Wow.
Parlant de Coupe du Monde, j'ai vu moins de films, mais j'étais un peu pris là-dedans. Là. Je me suis surpris à écouter. Ben, j'étais en Amérique du Sud, hein, fait que la frénésie du soccer. C'était comme, tu peux pas l'éviter, en fait. Puis juste une petite anecdote très, 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 très rapide. J'ai écouté la game de la Colombie. Ben là, la Colombie vient d'être éliminée, malheureusement. Mais la Colombie avait gagné un match alors que j'étais présent. Puis juste de vivre la frénésie, tu sais, il avait gagné contre le Sénégal. Puis c'était très difficile, là, à la base. C'était pas sur papier, c'était pas garanti qu'il gagnait. Puis là, t'as toute la ville, tu sais, les gens, ils sortent dans la rue. Le monde sont chauds en début d'après-midi. Tout le monde klaxonne tout le long de la... Tu sais, la ville est paralysée. Puis, tu sais, Bogota, c'est quand même 8 millions d'habitants. Hein, bah. Puis, tout le monde est genre... Faut la comprendre, la frénésie du soccer, sérieusement. À un moment donné, j'ai posé la question, j'ai dit, tu sais, comme nous, mettons, le hockey, là. C'est pas tout le monde qui écoute le hockey, quand même. T'sais, le monde est fou de hockey, mais c'est quoi la proportion? Je te dirais quoi? Hein? Mettons, 2/3 des gens écoutent le hockey, je dirais.
Ben, comme là, t'es dans la Coupe du Monde, c'est un événement aux 4 ans qui est ultra gros. Faudrait comparer, ouais. Tu sais, comme quand c'est, mettons, le Canadien se ramasse en série dans les dernières rondes, là, vraiment, on sent que il y a l'effervescence dans la ville.
Exactement, exactement.
Mais t'sais, faut, on peut pas comparer non plus des pommes et des oranges.
Ah, non, non, non,
c'est
non,
sûr
non,
que
non,
la
clair,
saison régulière... t'sais...
Mais je voulais juste comprendre un peu, puis tu sais, on m'a dit, puis c'est une statistique maison, là, ne me citez pas là-dessus, mais tu sais, on m'a dit genre, tout le monde écoute le soccer, tout le monde écoute la Coupe du Monde. Tu sais, c'est comme plus de 90% là, selon l'estimation maison de, d'un Colombien qui écoute le soccer. Fait que ça vous donne quand même un peu, une... ben, pendant la Coupe du Monde, fait que ça vous donne un peu une idée. Bref, fait que c'est pas du cinéma, mais j'ai vu pas mal de matchs de soccer. Mais ça m'a donné en goût de revisiter le film Offside de Jafar Panahi, en fait.
Ben oui, ben
si
oui.
Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Je pense qu'on en avait parlé un peu au podcast, d'ailleurs. Mais c'est toujours très bon. En fait, même, je pense que j'ai préféré à Écoute renouvelée Offside, en fait, à la première fois que je l'avais vu. Mais bon, ne tergiversons point davantage. Donc, le film a été présenté devant ces audiences-là. Et ça m'a aussi permis de voir des films québécois et canadiens que j'avais pas vus avant. Fait que c'est ça l'ironie. Puis, j'ai visionné le film, le documentaire Angry Inuk de l'ONF, de Alethea Arnakuk-Barry. En fait, je dis de l'ONF, c'est une coproduction. Il y a iSteel Film qui est dans l'équation, puis l'ONF. Et c'est vraiment super, en fait, ce film-là. Les gars, est-ce que vous avez entendu parler du film?
J'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, malheureusement.
Ouais. Non, non.
Fait que, ben, c'est ça, Angry Inuk, c'est sur... c'est la cinéaste qui se met un petit peu en scène au fur et à mesure du film. En fait, au début, elle est plutôt distante, et plus le film avance, parce que c'est quand même un tournage de 5 ans. Il faut se le dire. Et plus, donc, la metteur en scène se mêle aux propres enjeux du film. Et, mais en fait, c'est un film qui met en perspective toutes les politiques autour de la chasse aux phoques, en fait, pour les Inuits. Parce que, tu sais, bon, Brigitte Bardot et compagnie, on le sait, hein, ça date pas d'hier. Je veux dire, les Blanchons, ben c'est cute. Puis quand c'est cute, ben c'est inhumain, en fait, d'assassiner des Blanchons. Puis, tu sais, on peut comprendre pourquoi. Mais, en fait, les Inuits, c'est vraiment associé à leur mode de vie ancestral. C'est associé à leur survie. Mm-hmm. Mais ce que le film révèle, c'est que c'est aussi associé à leur inclusion dans le monde commercial. Parce que les Inuits, on dit tout le temps, « Ah, oh, vous avez des exemptions, vous avez le droit, tu sais, de faire la chasse aux phoques, mais pas pour des raisons commerciales. » Mais en fait, c'est la seule et unique façon pour les Inuits de s'inscrire dans la modernité d'une certaine façon, tu sais, en faisant la vente là, des peaux de phoque et des produits dérivés du phoque. Fait qu'en fait, c'est un film qui est super intéressant parce que c'est un film qui parle de cette problématique-là, mais du point de vue des Inuits. Puis ça met vraiment les pendules à l'heure. Je trouve que c'est vraiment un film d'écoute. C'est un film très, très humain. C'est un film qui a été tourné, comme je disais, sur 5 ans. Je pense que c'est un film qu'il faut fermer sa gueule puis écouter, puis gober dans un sens. On sent que la patte de mise en scène s'affûte au fur et à mesure. Je pense que c'est ça le propre d'un film qui est tourné comme ça sur des longues années. C'est un film qui, moi, m'a frappé par sa pertinence, par... ouais, en fait, j'ai que des bons mots sur Angry Inuk. Là. Puis c'est un film qui a voyagé partout dans le monde. Là. Je pense que c'était la monteuse Sophie Farkabola qui était présente pour le présenter, à défaut d'avoir la réalisatrice à Sao Paulo, et elle a dit justement que ça faisait plus de 100 festivals que le film voyageait là, depuis 2016, qui avait fait sa première à Hot Docs à l'époque.
Parce que je pense aussi que ça touche vraiment beaucoup à des problématiques qui, tu sais, au-delà du contexte spécifique canadien, tu sais, les relations entre nations indigènes et les conquérants, finalement, tu sais, ça va partout dans le monde. Là.
Ouais, ouais,
donc,
absolument.
Donc, c'est facile un peu de voir une correspondance dans d'autres pays. Là.
Ouais, clairement. Puis, tu sais, c'est vraiment un film qui est instigé par une Inuit aussi. Tu sais, elle est vraiment de cette origine-là. Il n'y a aucune interférence. Bon, mais elle s'est fait poser la question, la monteuse, en fait. On dit qu'il n'y a aucune interférence, mais toi, en tant que monteuse blanche, comment tu t'inscris là-dedans? Puis elle a dit, c'est vraiment drôle, en fait, parce qu'elle-même, elle avait énormément de... Puis en plus, on parle bien gros d'appropriation culturelle ces temps-ci.
Ben oui,
on,
avec Slav.
On débattra pas. On débattra pas trop de ça au podcast. Mais elle s'est fait quand même poser la question là, là-bas. Puis elle a dit, mais c'est la réalisatrice qui voulait absolument, qui tenait absolument à ce que la monteuse soit blanche, en fait, soit alloctone. Précisément, en fait, pour ne pas que prêcher les convertis. Parce que le regard extérieur faisait en sorte que peut-être ça pouvait rendre le film avec peut-être un appel... supplémentaire à ce film, puis c'est peut-être d'une certaine façon, c'est peut-être ce qui a peut-être aidé un certain appel, puis tu sais, c'est faut un petit peu peut-être l'enrober d'une certaine façon pour que le discours soit bien entendu et bien perçu, Puis c'est ce qu'elle a fait, la réalisatrice. Donc ça a été une force pour ce film-là et un choix personnel que de travailler avec une monteuse à Loctone, en fait. Fait que, ouais, mais dans tous les cas, Angry Inuk, je vous le mets sur votre radar. S'il n'y était pas déjà, c'est un très très bon documentaire et d'une pertinence complètement importante. Marqué.
Super. Puis est-ce qu'il y avait un autre film que tu voulais souligner, Pascal, parmi ton périple sud-américain?
Ben, non, pas vraiment en fait, mais j'ai peut-être des films d'avion là. On fait souvent des petits films d'avion.
Oh, ça c'est le fun.
Ouais, c'est le fun. Mais
c'est souvent des films pas importants, mais tu sais qui fallait que tu vois là, tu règles des tes cas.
Ouais.
On devrait vraiment. Mais... genre, ça serait vraiment cool, tu sais, comme avoir plus de temps là, à consacrer au site web là. Tu sais d'avoir, tu sais comme il y a des catégories sur notre site web là, les essais, les entrevues, tout ça. Avoir une catégorie genre films écoutés dans l'avion, genre c'est comme des petites capsules genre qui prennent en compte le contexte. Là. Parce que comme on s'entend qu'écouter Dunkirk dans l'avion, c'est pas comme aussi
non, non c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais justement moi je suis bien sensible à ça, puis on disait qu'il y a rien qui me tentait comme film de fiction, fait que j'ai écouté plein de TED Talk, mais ça j'en parlerai pas, puis j'ai écouté toutes ou presque là, à genre trois metteurs en scène près, tout le Vice Guide to Film. Avez-vous entendu parler de ça?
Non,
c'est quoi déjà ça?
Ben c'est Vice là, la compagnie Vice, qui a fait genre avec 20 réalisateurs, c'est 20 mini documentaires de 22 minutes, puis pour X raison, il y en a deux qui sont de 44 minutes, c'est les frères Cohen puis David O. Russell. Je sais pas pourquoi David O. Russell valait un 45 minutes et l'ont un 22 minutes, mais ça, bon, c'est peut-être mon biais personnel. Là. Mais sinon, c'est 22 minutes, puis tu passes de Werner Herzog à Claire Denis, à Jane Campion, à Tarantino, à Fincher, puis c'est juste vraiment ludique, là. C'est comme, t'apprends plein de choses, ça passe en revue la carrière de tous les cinéastes. Il y a tout le temps plein de monde qui, tu sais, bon, pertinent, qui parle, là. Tu sais, mettons, t'as George Clooney qui va parler des frères Coen, puis t'as... mais tu sais, puis Holly Hunter, puis tu sais, qui vont parler des frères Coen, parce qu'ils prennent des collaborateurs ou des gens experts sur tel ou tel ou tel cinéaste. Mm-hmm. T'as James Franco qui est comme invité quand il parle de Werner Herzog, pour X raison. pour X raison. Fait que, tu sais, c'est vraiment du doc de Talking Head, OK? C'est vraiment rien d'extraordinaire. Mais c'est des pep talks, tu sais, de voir finalement la carrière de tous ces cinéastes-là qui ont quasiment tout en commun de, genre, écouter personne, puis de faire à leur tête, puis de juste être comme awesome à transgresser toutes les règles. Puis, ouais, fait que j'ai comme écouté 20, ou en fait 18 fois, parce que il m'en reste 3 à écouter, des documentaires sur des cinéastes dans l'avion. Fait que ça a été tout mon avion, ça a été d'écouter des petits docs sur tout plein de metteurs en scène. Fait que c'est vraiment pas si excitant que ça, là, mais je voulais juste le dire. Vice Guide to Film, vous pouvez le trouver sur le site de Vice, là, si vous cherchez de quoi écouter puis que vous aimez les petits documentaires formatés.
Si vous voulez prendre un billet d'avion.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Super, alors on est content de te retrouver parmi nous dans une température, ma foi, sud-américaine cette semaine à Montréal.
Et... il fait plus chaud à Montréal, man. Il fait bien plus chaud à Montréal qu'à Bogota puis qu'à Sao Paulo.
Et dans 7 jours exactement, à l'heure où on enregistre, sera lancé le 22e Festival international Fantasia de genre et d'asiatique et de tout ça.
Oh my God.
On va en parler, évidemment, parce que c'est un de nos festivals préférés. Et on va souligner déjà d'emblée que c'est peut-être la discussion la moins objective au monde. Parce que là, Pascal est sur le jury cette année des films québécois, des Fantastiques Week-ends cinéma québécois.
Ouais.
Section que Rémi, évidemment, tu programmes. Et moi, cette année, bon, j'ai pas vraiment de lien avec le festival, mais pendant plusieurs années, j'étais à la billetterie et j'ai fait des petits trucs parallèles avec eux. Donc, bon, ceci étant dit, on peut quand même en discuter.
Ouais.
Et déjà, pour commencer, en fait, moi, je voulais juste souligner quelque chose d'un peu spécial. C'est que cette année, il n'y a comme pas eu de conférence de presse du festival. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Puis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je sais pas trop. C'est sûr que, comme il y a une communauté de fidèles, de fans, puis tu sais, comme... Fantasia a vraiment bien comme fidélisé son public au fil des ans. Mais là, c'est comme dans une semaine, puis j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc ça, c'est un petit peu dommage, un petit bémol. C'est un peu peut-être du behind the scenes, là, parce que pour la très grande majorité des gens, tu sais, c'est pas à la conférence de presse. Mais ça fait qu'il y a comme moins d'articles qui sont écrits sur le festival en ce moment. Ça va peut-être changer au cours des prochains jours. Mais c'est notamment grâce à des podcasts comme le nôtre qu'on va pouvoir vous donner aussi quelques suggestions et des trucs à ne pas manquer. Donc, Fantasia, les amis, Fantasia, qu'est-ce que c'est? C'est le festival de cinéma le plus long à Montréal. C'est le plus festif, c'est le plus ensoleillé parce qu'il a lieu en plein mois de juillet.
C'est pas le plus long en Amérique du Nord aussi?
Il me semble non, c'est... je pense que c'est Seattle.
C'est Seattle. Ouais.
Ah, ok.
25 jours, Seattle.
Ben, on peut upgrader au Canada, là. C'est quand même pas
ouais, possible. Ouais, okay, au Canada. C'est l'un des festivals de genre les plus importants au monde, ça c'est clair. Il y a un marché maintenant, frontière, depuis quelques années, qui aide vraiment beaucoup à la production de films de genre, notamment québécois, mais pas que. Mm-hmm. Cette année d'ailleurs, je pense que s'il y a comme un cinéaste ou un groupe de cinéastes plutôt emblématiques du festival, c'est Roadkill Superstar, qui reviennent avec Summer of 84, après leur Turbo Kid, eux qui ont aussi fait plein de courts-métrages. Donc, le trio de... C'est Annick Wissel, Johan Wissel et Marc-André Simard. Donc, Summer of 84, on a hâte de voir ça. Et petit ajout aussi à cette information, c'est que dès le 3 août, au Cinéma du Parc, le film prendra l'affiche, précédé de A Night of Sweats de Rémi Fréchette.
Oh!
Donc, tout
est dans tout. Donc, ça, c'est super cool. C'est vraiment.
Convergence des médias!
Ouais. Hashtag
Rémi
convergence.
Plug Pascal à Fantasia. Paul plug Rémi à. Tout se mêle. On est tellement ras dans les coulisses de point de vue.
Ouais. Tu sais, il y a 6 ans, les gens se moquaient de nous de partir un podcast. Mais là, hey, si on n'a pas l'industrie dans notre poche arrière, je sais pas ce qu'on a.
Moi, à Concordia, il m'accotait dans les cases. T'en souviens? C'était Pascal qui m'accotait dans les cases.
Sinon, peut-être pour parler aussi d'autres films québécois dans le lot, il y a Dans la brume de Daniel Roby, évidemment. Daniel Roby qui nous a donné Louis Cyr, l'homme le plus fort au monde. Dans la brume, un film, donc, un suspense français qui ouvre le festival. Quoi d'autre aussi du niveau québécois? Il y a des...
Wendigo de Robert Morin.
Ouais, ça, c'est une rétrospective.
J'ai tellement hâte de découvrir ça, là.
Ouais. Un film adapté du roman qui avait inspiré Apocalypse Now, Heart of Darkness, je pense.
Ouais, Heart of Darkness.
Ouais, je savais pas du tout que c'était basé là-dessus.
Ben, ensuite, j'ai pas vu le film, mais c'est dans la note d'intention du cinéaste. Mais tu sais, connaissant Robert Morin, ça va peut-être être adapté de loin. Là, mais ouais, j'ai hâte de voir ça, je l'ai jamais vu. Il y a un film de Yves Bélanger qui est là. C'est quoi les autres films restaurés, Rémi? Tu dois savoir ça, les films québécois, là?
La pomme, la queue et les pépins.
Oui,
dans ce ordre-là que ça se dit.
Oui, de Claude Fournier.
Le film Sexploitation, kind of, like des jokes de mon oncle cochon, là.
Oh, shit.
Ça, c'est toujours un plaisir à découvrir sur grand écran Fantasia. Parce que t'as tout le temps des gens qui ont vu ces films-là beaucoup de fois, tu sais, sur un tape enregistré à Canal D. Puis là, ils sont super contents de le découvrir sur grand écran. Puis j'avais vu genre les lavières des ménages, là, comme ça, là. Puis c'est vraiment des beaux événements, là.
Il y a le film québécois de David Paradis, Le Nid, avec Pierre-Luc Briand.
Ah, je cherchais les vieux, en fait.
Oui, c'est ça, les vieux. Ouais, excuse-moi.
Mais ça, c'est le côté de Marc Lamotte aussi, qui est en partenariat de proche avec Éléphant. Puis à chaque année, il y a des films restaurés, des films québécois perdus, entre guillemets, là, qui n'avaient jamais eu de sortie en Blu-ray ou même en DVD. Là. Il y a quelques années, il y avait eu Dans le vent du dragon, qui est un film tellement important dans notre cinématographie. Puis il n'y avait pas eu de version DVD, donc c'est la chance de le voir, c'est la Fantasia, dans des nouvelles restaurations. Ouais. L'autre film que j'ai trouvé, c'était Amanita Pestilence de René Bonnière, qui est un autre vieux film québécois des années 60, il me semble.
Mm-hmm.
Donc c'est ça, mais tu sais, tu check les castings, puis tout du monde qui sont vraiment connus aujourd'hui, mais qui commençaient leur carrière à l'époque. Pis souvent, ils accompagnent les films à Fantasia, donc ça, c'est vraiment intéressant de découvrir ça. Là. C'est une partie de notre héritage cinématographique. Mm-hmm.
Tantôt, je parlais de Yves Bélanger, c'est un lapsus, évidemment, je veux dire Yves Simoneau avec son film Zoloc.
Ah, c'est ça, ouais, aussi. Mm-hmm. Qui est un genre de documentaire étrange, moitié fiction, moitié doc. Ça se peut-tu? C'était comme un truc sur la BD. Là. J'ai checké la bande-annonce, puis il y a des entrevues avec des BDistes. Mais en même temps, il a l'air d'avoir une trame narrative de fiction autour de ça. Ça a l'air vraiment particulier.
Ouais, j'en avais pas entendu parler de ce film-là, donc je te laisse je te laisse confirmer. Mais ouais, effectivement. Sinon, cette année, une petite déception de mon côté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires. C'était souvent, une façon de sortir des documentaires un peu plus marginaux. Puis il y en avait comme, il y en a comme que trois, dont un qui est comme c'est un documentaire, dans le fond, produit par Ubisoft sur la création du jeu For Honor. Puis évidemment, bon, Ubisoft, c'est un partenaire du festival depuis des années.
C'est plus un partenaire de Fantasia depuis quelques années, en fait.
Ok, c'est plus un partenaire. Bon, ben.
Non, depuis 2-3 ans, en fait.
Okay.
Puis en fait, je peux en parler parce que c'est comme moi en particulier programmé ce film-là.
Ok.
Donc, c'est le côté rockstar de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. En fait, c'était de base une série télé qu'il avait faite. Puis ils ont tout repris le footage, puis ils ont remonté un tout nouveau projet qui est un long métrage. Là. Donc, une forme long métrage avec des coupes de personnages, là, comme un bon documentaire va le faire. Mm-hmm. Puis ton personnage central, c'est le créateur de Forerunner qui a toujours rêvé de faire ce jeu-là exactement. Puis il est dans les industries de jeux vidéo depuis longtemps, puis c'est un personnage, tu sais, il y a un chapeau avec une canne, une grosse barbe, il a l'air d'un genre de métalleux rockstar là. On dirait qu'il est dans un groupe genre Rammstein là, tu sais. Puis mais le gars tu le vois dans ses ups et downs pendant qu'il crée le jeu, puis tu sais, c'est quoi les coulisses d'un blockbuster de jeux vidéo comme ça, parce que l'industrie du jeu vidéo c'est présentement c'est beaucoup des suites en fait. Les grosses compagnies font leur cash sur les suites de Prince of Persia, de Battlefield, pis ça, tous ces trucs là puis lui il est arrivé avec un nouveau concept. Ça, c'est un gros gamble pour Ubisoft. Fait que c'est, s'il se plante, c'est vraiment de la merde pour sa carrière puis pour la compagnie, parce que c'est des jeux qui coûtent des millions et des millions. La courbe est autour de ça. Donc de lui puis de deux autres des directeurs de projet à Ubisoft. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est comme des coulisses d'un monde que j'étais pas très habitué de voir, qu'on connaît peut-être pas tant que ça, mais qui est très en parallèle avec le cinéma. Donc c'est super intéressant parce que ça donne une forme cinématographique comme genre de documentaire.
Okay.
J'ai beaucoup aimé ça.
Okay, cool.
Super cool.
Ouais. Mon commentaire, c'est surtout en fait qu'il n'y en avait pas beaucoup, ça, je trouvais cette année.
En
même temps, tu sais, il y a d'autres films dans d'autres styles. Ça peut-être pas juste. Peut-être c'est juste une année où le documentaire n'a pas particulièrement soumis à Fantasia. Je suis pas au courant de ce qui se passe.
Cette année, là, il y a trois films qui se passent dans des écrans d'ordi.
Ben oui, justement. Parce que ça, là, étrange.
Ben, il y a deux, trois ans, il y en avait eu deux. Parce qu'il y avait eu Unfriended, puis il y avait eu comment ça s'appelait déjà? Open Windows. Nacho Vigalondo. Mm-hmm. Puis cette année, ben, il y a Unfriended 2. Il y a Profile de Timur Bekmambetov, comment il s'appelle, le russe, là, qui a fait Nightwatch et Daywatch.
Qui va venir donner une classe de maître, d'ailleurs.
Ouais, exactement. Puis le troisième, c'était avec le gars de Harold Décumar.
C'est Searching.
Ah oui, c'est ça, exactement. C'est ça, il y a comme trois films qui se passent dans des écrans d'ordi. Tu sais, puis en plus, on voit que tous les festivals ont perdu la vibe de mettre du fan footage, mais là, ce qui remplace le fan footage, je pense que c'est les trucs dans un écran. Là, c'est quand même un sous-genre assez particulier qui a vraiment pris de la place dans le festival.
Mais moi, j'associe absolument ce sous-genre-là à Fantasia. Comme, c'est des films que j'ai l'impression que je vais juste voir à Fantasia puis je verrai jamais ailleurs dans ma vie. Mais bon.
Mais je vais essayer d'aller voir les trois puis de faire un genre de rating. T'sais. J'aimerais vraiment ça, comme avoir une vue d'ensemble de... Chris, à manier, où c'est que tu le pousses, le concept? T'sais? Je l'ai vu deux fois il y a 3 ans, puis là, je me le retape 3 autres fois. Je veux voir comme où c'est que tu l'amènes pour changer un peu la donne. Là.
Ce qui se rend encore plus méta, là, c'est que t'es dans la salle de presse, que tu te prends 3 ordi côte à côte, que tu startes les 3, puis là, tu te filmes en train de regarder ça.
C'est trop bon, man.
Oh, wow, puis je mets l'intégrale sur le site de Point de Vue. Bon. Puis on se fait poursuivre parce qu'on a publié les 3 films.
Ben non, à moins qu'on filme juste ta réaction, puis là, comme au milieu du screening, là, tu te fais attaquer. En tout cas, bon.
Oh my god.
Sinon, parmi les gros blockbusters, les gros films attendus cette année au festival, j'ai l'impression qu'il manque peut-être comme une grosse locomotive, un gros nom, mais il reste qu'il y a quand même des gros morceaux comme Mandy avec Nicolas Cage.
Ben oui.
Ben c'est comme ça le gros morceau, là, je pense, là. Tu sais, parce que en fait, ce qui arrive avec Fantasia, c'est que le festival est vraiment proche du TIFF, fait que souvent ça arrive que le TIFF prenne les premières canadiennes, puis Fantasia les perd. Fait que juste le fait que Fantasia ait eu Mandy. Ça, c'est vraiment un gros hit pour le festival. Ça, puis Under the Silver Lake là. C'est comme les deux grosses prises. Mm-hmm. Puis les programmateurs ont beaucoup highlighté aussi The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot avec Sam Elliott qui va être sur place.
Aussi Buddy de Joseph Kahn qui a eu vraiment beaucoup de buzz en début d'année, ce film-là. Très hâte de voir ça. Madeline, c'est un autre film qui a joué dans beaucoup de festivals qui a eu des excellentes critiques.
Hey, ça a l'air fou, ça, juste la bande-annonce, là, je l'ai regardé 2 fois, ça a l'air super créatif.
Puis ça, ce qui est assez rare, c'est que c'est A24 là, qui distribue le film, et la bande-annonce a été créée spécifiquement pour le film par un autre artiste. T'sais, ils sont allés chercher un artiste visuel, je m'en rappelle plus de son nom, et il a vraiment créé, c'est vraiment pas une bande-annonce traditionnelle, là. C'est une espèce de... Oh.
Excuse-moi, reprends, je vais fermer mon set.
C'est ça, c'est absolument pas une balance rationnelle, c'est une espèce de... Je sais pas comment tu le décrirais, Rémi, mais c'est une espèce de mini-cours en soi.
Ben, c'est un trip expérimental visuel, ouais. La bande-annonce, là, c'est hallucinant, là, genre, j'ai jamais vu quelque chose ouais, comme que ça. C'est tellement beau. On dirait un peu un vidéoclip de Michel Gondry, mais comme moins cheap. Tu sais, Michel Gondry aime ça quand ça a l'air un peu... fait à la main, ouais, là, mais là, c'est genre... Ouais, c'est un peu le côté artisanal de Michel Gondry, mais fait avec beaucoup plus de soin, je dirais, là... Avec sous toute réserve, là.
Ouais. Mais, ouais. Fait que non, c'est cool, ce genre de films-là qui ont des approches un peu plus originales pour la bande-annonce, parce que ça finit par tout se ressembler, là.
Oui.
Sinon, cette année, c'est DJ XL5 qui accroche ses patins. On a annoncé que c'était la dernière fois qu'il présenterait ses fameux parties, comme il les appelle. Est-ce que c'est signe qu'il va peut-être avoir du renouveau l'année prochaine à Fantasia, peut-être un passage de flambeau, peut-être que certaines personnes vont se retirer? On va le savoir peut-être d'ici la fin du festival, mais j'avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai lu les mots « dernier spectacle de DJ XL5
».
En fait, Paul, je pense que ça sera pas le Zapping Party. Là. Genre, peut-être que je me trompe, là, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a plus de projection history, genre. Parce qu'à chaque édition de Fantasia, il y avait deux projections XL5. Il y avait le Zapping Party, puis il y avait son truc historique qu'il faisait à chaque année, qui était un travail de recherche. Par exemple, il y en avait un sur les super-héros, un qui était le Black Exploitation, un qui était le Bollywood. Puis cette année, en fait, son dernier, c'est des vidéoclips, puis il fait c'est avant le festival, donc c'est dimanche prochain. Puis c'est gratuit, l'entrée, c'est à la fausse plage, là. Voyons comment ça s'appelle, la plage à côté du pont Jacques-Cartier, là.
Je sais pas.
Aidez-moi, voyons, c'est quoi? C'est comme une beach artificielle, là.
Le beach club de Pointe-Calumet.
Non! Ah, un village au pied du courant,
ah,
c'est
ouais,
ça.
Ah ouais, ok, ouais.
Donc c'est ça, cette année, ça va être au village au pied du courant, puis l'entrée est gratuite. C'est une compilation des meilleurs vidéoclips qui a passé à travers les Zapping Party. Mais d'après moi, le Zapping Party va revenir. Là, je veux pas m'avancer là-dessus, mais il me semble que c'est ça. Le Zapping Party revient, mais il ne fait plus d'histoire de... cette année, son dernier serait l'histoire du vidéoclip, dans le fond, avec un genre de best-of des vidéoclips qu'il a mis dans les Zapping Party. Voilà.
Bon, eh bien, de toute façon, si James Bond m'a bien appris quelque chose, c'est qu'il faut jamais dire jamais.
Ouais, c'est ça. Bien joué.
Ensuite, parmi les cinéastes, on va dire, habitués du festival, ceux auxquels on attend les nouveaux opus à chaque fois, il y a un nouveau Takashi Miike avec La Place Witch.
Ouais.
Il y a Sion Sono avec Tokyo Vampire Hotel.
Oh, yeah.
Et
oh,
ça, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est que c'est une série d'Amazon, en fait. Donc, une série en 10 épisodes qui faisait donc des épisodes de 25 minutes. Et là, dans le fond, c'est un remontage en version film.
Ah.
Donc, j'avoue que je crains un peu le truc. J'espère que ça n'aura pas trop de l'air de quelque chose d'un peu trop rapiécé et qu'il nous manque des bouts. Mais Sion Sono, c'est un peu un automatisme. On y va à chaque fois.
Mm-hmm.
Puis, en même temps, ce qui est le fun avec Sion Sono, c'est que j'ai l'impression que il va, même s'il y a un peu son style, puis il y a un peu son énergie, mais on dirait qu'il aime ça nous surprendre. T'sais, à chaque fois qu'on pense qu'on l'a mis dans un coin... Il nous montre autre chose, donc très de voir ça.
Hey, puis Paul, tu parlais qu'il n'y avait pas beaucoup de documentaires, mais il y en a un, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Boiled Angels, The Trial of Mike Diana. Puis c'est à propos d'un cartooniste dans les années 90 qui faisait des dessins vraiment trash, là, hyper, hyper trash. Puis il y a eu un procès pour la distribution de matériel immoral, là, un truc comme ça, là. Puis ça a été un gros cas médiatique qui a été suivi. Puis le réalisateur du documentaire, c'est Frank Hennenlotter, qu'on connaît pour des films de série B comme Les Basket Case, Frankenhooker, tu sais, des films B un peu trashouilles, là. Puis là, ben, c'est un documentaire qu'il a réalisé sur ce cartooniste-là. Fait que ça, je pense que ça va être assez bon. Ça a l'air assez standard de la façon que c'est construit comme un doc, là, avec beaucoup d'images d'archives, mais il y a énormément de gens de la pop culture qui viennent parler. Entre autres, il y a une entrevue, je sais, avec George Romero dans le film, sûrement une des dernières entrevues qu'il a données, où il parle de Mike Diana. Donc ça risque d'être très intéressant au festival.
Ouais, ok, cool.
Autre, pas un habitué peut-être, mais un retour qu'on n'espérait plus, c'est Nobuhiko Obayashi, surtout connu pour avoir réalisé le fameux film culte Haozu. Qui lui, en fait, dans la vie, en fait, ce cinéaste-là a été diagnostiqué pour le cancer il y a pas longtemps, puis on craignait pour sa vie. Et il a finalement réalisé ce film, un peu qui était comme un film qu'il voulait faire toute sa vie, Anagatami. Et là, bon, apparemment, ça va mieux au niveau santé. Et ce film-là, en fait, a vraiment eu des critiques dithyrambiques partout où il est passé. Donc, on attend ça avec beaucoup d'impatience.
Puis rappelle-moi le titre, excuse-moi.
C'est Anagatami.
OK. Ah, super cool, ça. Hey, moi, c'est ça. Là, moi, j'ai le fantasiste, tout le temps, ça débarque en trombe. Puis souvent, j'aime ça faire ce podcast-là avec vous, les gars, parce que ça me guide aussi, tu sais. Je l'avais pas vraiment fait, l'exercice d'éplucher la programmation. Puis là, je l'ai sous les yeux. C'est un peu la première fois que je prends vraiment le temps. Puis toi, Rémi, ben, t'as connais super bien. Puis Paul, t'as toujours des super bons insights. Fait que educate my ass, mes chers acolytes. Mais j'en ai deux que je veux quand même nommer. Parce que j'ai l'impression que si je les nomme pas, peut-être qu'ils vont passer un peu à côté du radar. Il y a un film que moi, je veux voir absolument. Il est sur mon radar depuis Sundance, depuis Park City en début d'année. C'est Skate Kitchen de Kristen Mozell. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi ça?
Non,
je pense que j'ai vu la bande-annonce, mais je me souviens pas.
Ben, Kristen Mozell, déjà, là, elle, son film qui a été un peu son breakthrough, si on veut, c'était un documentaire. Et c'était le film de Wolfpack. C'était comme toute une famille de wannabe un peu cinéastes, toutes comme obsédées de culture pop, puis tu sais, qui étaient toutes dans super reclus, puis qui vivaient tout en intérieur, ils sortaient jamais de leur appartement avec un père méga autoritaire, fait qu'ils créaient une espèce de monde intérieur complètement fascinant, puis la réalisatrice s'était un peu petit à petit immiscée dans leur univers. En tout cas, c'était vraiment intéressant comme film. À défaut d'être un grand film, je pense qu'il y avait quand même définitivement quand même quelque chose là. Mais là, Skate Kitchen, en fait, bah, moi, c'est parce que peut-être ça tombe complètement dans mes cordes, là. Une espèce de film hangout sur comme un féministe sur des skaters. Tu sais, ça file un peu revisionniste, kids, mais en même temps, c'est ça, tu sais, très girl power, puis avec du skate, puis en tout cas, ça a l'air juste vraiment génial. Donc, je vous le mets sur votre radar, Skate Kitchen. Puis un que je n'ai pas vu, mais que j'ai passé beaucoup de temps avec le cinéaste à Buenos Aires en avril, le cinéaste d'animation Ujida, et le film s'appelle Violence Voyager en anglais. Puis j'avais juste vu la bande-annonce, excusez-moi, j'avais juste vu la bande-annonce de ce film-là, je l'avais manqué pour X raisons lorsque j'étais de passage juste à Buenos Aires, mais ça ressemble à rien, puis c'est, tu sais, du What the Fuck Japan crinqué à 11, là. C'est vraiment, c'est de l'animation, mais en collage, c'est très bric-à-brac.
Ça a l'air tellement bon,
ça. A l'air insane, fait que Violence Voyager, là, mettez ça sur votre radar si vous voulez être dérouté par un film à Fantasia, là. Parce que moi, vraiment, tout le monde qui l'avait vu, il était comme, sérieux, c'est genre, il n'y a rien qui ressemble à ça. Il n'y a rien de rien de rien. Puis c'est que c'est bien stimulant parce qu'il y a un univers complètement hyper riche, là. Tu sais, je veux dire, ça va dans tous les sens. Mais c'est fait complètement d'une façon, tu sais, low budget, comme je disais, super, super artisanal, au risque d'être carrément... ça file un peu fauché, mais en même temps, c'est des histoires tellement épiques que ouais, t'embarques dans son univers, là, ça fait un peu comme un film d'enfant, bricolage, mais...
ouais, c'est des marionnettes en papier, ouais, avec des bâtons, ouais, là, c'est vraiment juste c'est ça. C'est la bande-annonce, elle est folle, puis tu le vois travailler dans la bande-annonce, ouais, là, comment il fait son
exact,
film,
exact.
Là, et des bouts un peu making-of, ouais. Là, ouais.
Non, mais sérieusement, ça a l'air juste fou braque, là. Fait que je suis très content qu'il débarque à Fantasia, c'est là que je vais l'attraper, je suis vraiment hype. Fait que ça nice. Était en deux, mais sinon, Rémi, éduque-moi, là.
Ben, et moi, dans le côté très festif, là, si je peux y aller, il y en aurait trois que je ciblerais. Il y a le film Body Melt de 93, qui est genre le compagnon australien à Bad Taste, là. C'est vraiment dans un genre de... les débuts de Peter Jackson, super... j'en viens dans un truc artisanal, là. Mais ça, c'est un des seuls films de minuit cette année. Il n'y a presque pas de projection à minuit. Je pense qu'il y avait les dernières années, les gens étaient pas assez au rendez-vous pour les projections de minuit, mais on a quand même laissé quelques-unes. Puis c'est toujours le fun, là, ces projections-là, parce que ceux qui sont là, ils sont là pour triper, puis ils sont là pour réagir. Fait que Body Melt, là, une affaire super gory, trash de 93, ça a l'air d'un beau trip, une version restaurée. Puis tu sais, on the side aussi, moi je programme la nuit douteux.org, qui est un genre de... qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais c'est parfait.
Ben, c'est douteux, en fait, l'organisme douteux Brouhaha qui font des projections depuis plus que 10 ans. Puis ils ont pris leurs meilleurs VJ qui ont fait des compilations, chacun avec une thématique. Mettons, il y a une fille, elle a fait un 10 minutes sur les animaux. Puis là, tu as 10 minutes de clips fucked up sur les animaux trouvés sur Internet, sur des VHS, un peu partout. Fait que c'est comme un 10 blocs pendant 2 heures. Avec des fausses, avec des, pas des fausses, des vraies pubs fucked up entre les blocs, des vidéoclips weird. C'est une espèce de gros mash-up de 2 heures, de plein de stocks. Puis ça aussi, c'est une projection de minuit. Fait que les gens qui vont être là devraient être passés au McKibbins puis avant de venir voir la projection. Mais voilà, donc Bodymelt, douteux.org. Sinon, Blood and Black oui. Lace de Mario Bava, Restauration 4K, qui est Mario Bava, que moi je connais vraiment pas beaucoup en fait.
Ouais.
Cinéaste italien qui a inspiré Argento. Le style d'Argento serait pas comme ça si Bava était pas passé. Là, c'est le premier à avoir fait du giallo puis à avoir mis bien de la couleur dans son image comme ça en Italie.
Ouais, ouais.
Donc ça va être, ça, je pense que c'est la meilleure façon de le découvrir. Ça va être sur grand écran en 4K. Donc, ça, je pense que c'est à ne pas manquer. Là. Surtout, s'il y en a qui ont vu la restauration, mettons, de Suspiria, je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant. Je pense que ça va être dans la même vibe. Là. Ça va être une belle expérience.
Oui, peut-être aussi une espèce de un petit avant-goût avant justement le remake de Suspiria de Luca Guadagnino dans quelques,
ouais, ouais, ouais.
Dans quelques mois.
Et puis, moi, j'ai une petite excitation aussi. Connaissez-vous ça, la série Puppet Master?
Ben, non, pas vraiment.
Non.
Ben, il y a une compagnie dans les années 80 que j'adore vraiment beaucoup, là, parce que c'était la compagnie qui a trouvé le marché de la VHS puis qui s'est attaqué à ça. C'est la compagnie Full Moon. Puis Full Moon, ils ont produit des centaines de films, genre très low budget, années 80-90, et ils en produisent encore. Le producteur, c'était Charles Band, qui était un genre de Roger Corman de la VHS. Mmh. Lui a compris cette industrie-là, puis il faisait du direct-to-video. Puis Puppet Master, la série, en fait, le 13e film va être projeté cette année à Fantasia. Donc, il y a 13 films dans cette série-là, qui a commencé dans les années 80, là, 80, puis même peut-être début 90, en fait, j'ai pas les dates sous le nez, là. Mais c'est comme une série qui a juste dégénéré, puis personne le sait, là, qui a autant de films. Tu sais, Full Moon sont responsables de d'autres trucs comme les Demonic Toys, Killjoy, ils ont produit avec des gars comme Stuart Gordon, ils ont fait un film qui s'appelle Castle Freak, The Dolls aussi de Stuart Gordon. C'est comme
toutes
des films
séries
d'horreur, là.
Ouais, c'est ça.
Mais on n'a jamais entendu parler.
Mais en fait, c'est les boîtes que tu voyais au club vidéo, tu faisais « What the fuck? » Qui c'est qui va checker ça? Tu sais, chez nous, j'en ai un en français, ça s'appelle « Le mini-flic de l'espace ». Puis c'est comme, c'est tellement bon ces films-là parce que ils savent exactement c'est quoi leur marché, c'est quoi qui marche dans leurs films, pourquoi ils font des films, puis ils vont à fond là-dedans. Mais là, je veux passer à... Excusez-moi, c'est une grosse intro,
non,
mais
non,
Puppet Master 13, pourquoi je suis excité? C'est parce que c'est réalisé par la gang qui ont fait Bone Tomahawk puis Brawl in Cell Block 99 qui ont eu des critiques de
oh,
fou.
Shit.
En fait, puis ouais, c'est ça, puis genre, tu sais, c'est une série qui donnait à des réalisateurs random où c'était des films de marde, là, puis ça faisait juste dégénérer. Puis là, c'est genre un réalisateur qui sait exactement ce qu'il fait dans le genre qu'il fait. Puis en plus, c'est un puppet master avec des nazis parce que ça s'appelle The Littlest Reich. Fait que c'est genre des petites poupées qui prennent vie avec des nazis. Puis c'est réalisé par le gars de Bone Tomahawk. Fait que là, moi, je suis full on là-dedans.
Amen.
J'ai vraiment hâte de voir ça en salle. Je pense que ça va être une super expérience. Donc voilà, c'est une autre de mes recommandations. Tout ça pour ça.
Ouais, tout ça pour ça, mais c'est bon.
Ouais.
Hey, sinon, moi, les gars, là, il y a quelque chose avec lequel j'associe Fantasia particulièrement. Puis c'est les vieux films de Kung Fu chinois que nous apporte King. Et là, cette année, il y a un duo déjà que j'ai vu là, qui va être présenté. D'abord, King Boxer, aussi connu sous le nom de Five Fingers of Death, qui est vraiment comme un peu un des classiques du genre, j'ai l'impression, mais qui est venu sur le tard. C'est un film de 72, et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire là, de cette vague-là, en fait, des films de Kung Fu, surtout ceux produits par les Shaw Brothers, mm-hmm. c'est que c'est vraiment, dans le fond, c'est une mini-ville qu'eux, ils ont construit sur le top d'une colline. Et donc, tu sais, c'était comme vraiment là, tu sais, des espèces de décors permanents. T'avais justement, t'avais une espèce de café, t'avais des cours, t'avais un dojo, plein d'affaires comme ça. Et de film en film, on récupérait les mêmes décors en changeant un arbre ici, en rachetant la peinture là, tout ça. Donc, ça donne vraiment un look familier à ces plus de 1000 films qu'ils ont produits en genre une dizaine d'années. C'est comme une bulle qui a explosé. Tu sais, les Shaw Brothers, c'est plus comme des hommes d'affaires que vraiment des cinéastes accomplis. Un peu d'ailleurs comme, il n'y a pas longtemps, j'écoutais un documentaire sur Canon Film. Puis les frères, je m'en rappelle plus.
Oh yeah.
Sont turcs ou sont pakistanais, je sais plus
ben,
trop.
C'est pas des frères.
Ah oh, non, c'est pas des frères?
Ben, il me semble que non, là.
Ou en tout cas, sont des partenaires de longue date, des amis de longue
date. Ouais, c'est ça, exact.
Mais bref, c'est ça, vraiment des gens enthousiastes qui se sont dit, OK, on va comme lancer ça, ou peut-être comme Full Moon, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça, les Shaw Brothers, donc, qui ont vraiment exploité le filon, mais comme tellement de manière intense que la bulle a rapidement éclaté. Puis c'est vraiment pas mal au début des années 70 que c'est un peu la fin. Donc, King Boxer, et l'autre, c'est Oily Monster aussi. Puis pour plusieurs raisons, la bulle a écrasé, a éclaté. D'une part, c'est ça, c'est le nombre absolument indécent de films qui sortaient à chaque mois, à chaque semaine. Ce qui fait qu'il y avait comme une espèce de surenchère. Donc, c'est pour ça que quand on écoute un peu les films du début des années 60 de ce studio, c'est beaucoup plus posé comme rythme. Il y a comme, tu sais, il y a moins de scènes de combat, il y a moins de personnages. Et là, rendu en 72 avec King Boxer, c'est qu'on a l'impression qu'il y a comme 5 films dans le même film, tu sais. Puis on dirait qu'ils ont essayé de tout mettre un peu les tendances du moment. Fait que là, t'as un peu de samouraï pour un peu genre contrer les films de Kurosawa. T'as une espèce de tournoi qui dure juste comme une scène, puis qui dans un autre film serait comme une espèce de, tu sais, la finale, le troisième acte au complet, ça serait le tournoi. Mais King Boxer, c'est ça, ça met en scène Lielo, qui est le protagoniste, qui est vraiment un charisme incroyable. Il ressemble un peu à... Il faisait penser à Tony Jaa un petit peu, par son regard intense et ses performances athlétiques. Et juste pour l'anecdote, c'est dans ce film-là qu'un certain cue musical que Tarantino a repris dans Kill Bill, vous vous rappelez, lorsqu'elle a marié, des fois, il y a des close-ups sur ses yeux, puis il y a une espèce de... Mais ça vient de King Boxer, justement, parce qu'il apprend la technique de la main de fer, puis là, soudainement, comme il ouvre ses paumes, il ouvre tout grand ses mains vers l'adversaire, et il y a comme un petit cue lumineux, genre une espèce de spotlight rouge qui va vers ses mains, comme s'il chauffait, comme s'il concentrait son énergie, puis c'est là que le cue embarque. Donc, tu sais, c'est une espèce de... Comme ça, c'est des films rigolos. Moi, je trouve ça super. C'est vraiment l'équivalent, là, pour moi, de l'espèce de fast-food, là. C'est comme des... Tu sais à quoi t'attendre, tu sais qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est intéressant aussi d'avoir comme une perspective historique, puis se dire que, rendu là, t'avais vraiment l'impression qu'il mettait un peu n'importe quoi dans ses films, parce que, justement, la popularité diminuait. Puis bon, une autre des raisons aussi que la popularité diminuait, c'est qu'au même moment, t'avais Bruce Lee qui faisait son entrée dans le 7e art et qui, soudainement, lui, sa popularité a explosé. Puis lui, c'est un peu aussi un retour aux sources, puis peut-être avec de quoi de plus brutal, puis de plus simple aussi. Puis Oily Monster, c'est probablement le seul film de Colette Terreur que j'ai vu. C'est à propos d'un propriétaire d'une plantation d'huile de coco. Qui est handicapé, se promène avec des béquilles, mais en invoquant un dieu à partir d'une formule que lui a transmis son père juste avant de mourir, il est capable d'invoquer la force de l'huile puis de devenir le Oily Monster.
Mais en même temps, tu sais, c'est le seul film de Colette Terreur, mais il y a eu quelques années à Fantasia, il y a eu The Greasy Strangler,
ouais,
qui est exactement...
C'est vrai.
La prémisse ressemble tellement, là, j'étais comme... Je me demande si Greasy Strangler s'est inspiré de ça, parce que, tu sais, à part le côté... C'est deux tonalités différentes, là, t'as... Greasy Strangler, c'est de l'humour fucked up à la Napoleon Dynamite, là. Mais reste que la prémisse ressemble quand même, puis la débite aussi, là, en tout cas.
Ben, pas spécialement, mais j'ai pas vu Greasy Monster. Il faudrait que je vois s'il y a un
lien. Ah, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment trouvé.
Un double feature. Puis ça fait que c'est le même studio, puis vous allez voir un peu, c'est la même esthétique. Puis il y a quand même vraiment des trucs, tu sais, qu'encore aujourd'hui, sont vraiment efficaces. Puis, tu sais, c'est le fun, des fois, de voir des vieux films, puis, tu sais, de voir un peu qu'est-ce qui traverse le temps, puis quel... techniques de cinéma marchent encore, quelle astuce de montage. Mm-hmm. Tu sais, comme notamment, genre, tu sais, les espèces de snap zoom pendant les séquences d'entraînement dans King Boxer, ça marche encore super bien, tu sais. Puis alors que d'autres choses sont complètement datées, puis tu sais, c'est rendu... c'était déjà à l'époque assez cartoonesque, là, mais là, ça devient, tu sais, super exagéré, puis... Donc, bref. Pour ceux qui aiment les vieux films chinois, un beau duo à restaurer. À se mettre sous la dent à Fantasia.
Bon, puis pour finir, à mon côté, ben, tu sais, En fait, il y a d'autres films que je serais passé parce qu'il y en a même que j'ai vu au BIF que j'ai beaucoup aimé, genre Cold Skin, j'ai vraiment adoré. Five Fingers from Marseille, un genre de western, c'est vraiment trippant. C'est des films, puis faut pas que j'oublie aussi Tigers Are Not Afraid. C'est des films que j'ai mis dans mes critiques, dans mon journal de bord du BIF. Donc, si vous voulez voir mes reviews, c'est trois films que j'ai vraiment, vraiment adoré. Je suis content que ce soit au festival. Mais je veux finir en prêchant pour ma paroisse, comme on dit. Là. Les courts-métrages, en fait, j'ai regardé quand même.
Je pensais que t'allais parler de Montréal d'Éden.
Non,
Rémi, t'es tellement altruiste, là. Félicitations.
On a tellement parlé de Montréal d'Éden. Je trouve ça, tu sais, vous le savez, là. Allez voir Montréal d'Éden, là, s'il vous plaît. Là, j'ai tellement travaillé fort là-dessus, c'est sûr, là. Mais je vais aller vous des courts-métrages, en fait. Juste donner un petit highlight. Mais une affaire qui m'a fait bien plaisir, Paul, c'est que tu m'as dit le matin de la programmation, waouh, tellement de courts-métrages que j'ai pas vu, tellement de nouveautés. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que. On a essayé, tu sais, il y en a quelques-uns qui ont passé à RVCQ ou FNC à Montréal, mais on a essayé d'avoir beaucoup, beaucoup de premières, puis à chaque programmation, il y a quelques premières vraiment, vraiment nice qu'on est très heureux d'avoir. Mmh. Donc, il y a plein de nouveautés, plein de trucs surprenants. On essaye aussi d'aller chercher un autre range que le FNC ou les RVQC, je devrais dire. Mmh. On essaie vraiment d'aller ailleurs, donc de prendre du cinéma de genre, de prendre du cinéma différent. On a aussi des films dramatiques, on a de la comédie, mais on essaye d'élargir le scope puis d'aller chercher des films des films qui passeraient pas n'importe où là, disons. C'est ça, puis celui que je veux faire le highlight, ben c'est celui qui ouvre, puis je suis tellement tellement content d'avoir pu lui donner ce spot là, mais c'est le film Milk de Santiago Mengini. C'est un de nos amis là, mais
tu penses qu'elle a fait le montage sonore là-dessus, non, ou la conception sonore?
Ouais, c'est ça. Ouais, là, ouais. C'est vraiment tout est dans tout encore là, mais ouais
ouais, mais tu sais, reste que tu sais, sur l'autre film qu'on avait, c'est parce que ça prend tout le temps un film qui est dans un certain registre pour ouvrir le festival. Ça prend un court-métrage qui est ultra maîtrisé mais qu'on a aussi en première à Montréal. Ça prend quelque chose qui va chercher un grand public, mais en même temps qui donne le ton d'entrée à Fantasia. Puis c'était comme... C'était un no-brainer. Le film Milk, fitait parfaitement. L'année passée, on avait eu No Wave, qui était un peu un film justement dans le même genre. C'est un genre de thriller horreur un peu fantastique, ultra maîtrisé, avec la mise en scène très impressionnante. Fait que, tu sais, ça reste un peu dans ce ton-là, puis c'est vraiment la meilleure chose pour nous pour ouvrir. Puis en fait, en plus, ça va être avant dans la brume. Fait que je suis vraiment content que ça passe. Fait que juste pour venir à la soirée d'ouverture, vous allez pouvoir voir deux belles affaires, Milk puis dans la brume. Donc voilà, ouais. C'est ce que j'avais à dire.
Hey, moi, mine de rien, les gars, là... Il y a un nouveau film de Joseph Kahn dans la programmation,
ben
oui, ben oui. Vous m'en avez pas parlé.
Ben oui, mais j'ai mentionné rapidement tantôt Buddy.
Ouais, je sais, sauf que j'ai pas fait le lien que Buddy,
c'était le gars qui a fait Torque.
Mais il y a vraiment du gros buzz sur ce film-là, honnêtement, Pascal. Donc,
ben oui. Pascal Plante, méga fan.
Ben oui, ben. Ça, on a déjà raconté l'anecdote. On l'a déjà raconté. Hein, que,
on l'a déjà raconté, oui.
Qu'à mon mariage,
Pascal s'est tapé deux fois.
Torque en VHS, français, Panenscan, deux fois de suite.
De pas de son, en fait, deux fois.
C'est un des rares films que j'ai vu deux fois en 2018 en fait, Torque.
2017.
Fait que tu sais, peut-être que j'allais voir Buddy deux fois, mais non, mais ça a l'air full intéressant.
Ça a l'air vraiment bon.
Ça a l'air vraiment intéressant. La prémisse, ouais. c'est sous trame un peu de tension raciale. Sujet toujours en fait très chaud, surtout aux États-Unis, mais j'oserais dire partout dans le monde, tu sais. Mais avec une trame de rap battle, là, carrément.
À la bande-annonce, c'est malade, là. T'as juste une insulte pendant comme une minute de temps là, d'un rappeur, là. C'est juste trop malade,
non, ça là. Insane,
fait... Puis c'est produit par Eminem, en plus. C'est vraiment hot, là.
Ouais. Je sais que Paul, tu l'as mentionné, mais c'est parce que ça valait plus qu'une mention, là. On parle quand même de Saint-Joseph Kahn, là.
In Kahn, we trust.
Ouais, in Can We Trust. Can!
Bon, okay, donc voilà, ça, Fantasia qui remettra également un prix d'honneur à H.D.O. Dante à ne pas manquer. Hein, ça va être cool. Il y a notamment une production de The Howling, puis également de Gremlins, mais aussi de Nightmare Cinema, qui est une anthologie, je crois, incluant un segment de H.D.O. Dante.
Ouais.
Ouais, donc,
De Mike. Fuck, c'est quoi son nom déjà? Mike Garris, c'est genre une star de l'horreur là, des années 80. Il me semble qu'il avait fait un Vendredi 13. Puis tu sais, il a fait une couple de suites de films. Là. Il a fait Sleepwalkers, il a fait Critters 2. Il a fait des adaptations de Stephen King comme Désolation puis Riding the Bullet. Fait que tu sais, c'est comme un gars qui a toujours plané dans l'horreur. Là. Il est vraiment... en tout cas, c'est vraiment cool. Puis il devrait être là aussi à Fantasia. Là. Il fait une classe de maître. Non, il enregistre un podcast. On est rendu là. Et les gars, c'est quand qu'on enregistre un podcast à Fantasia? Pas de réponse. Merci.
Ben là, c'est un peu dernière minute, mais ouais, non, cool. Ça fait le tour du Festival Fantasia. Vous irez voir toutes les infos au fantasiafestival.com. Évidemment, nous y serons du 12 juillet au 2 août et nous pourrons en parler encore plus au prochain épisode. Mais assez parlé du film d'horreur. Rémi Fréchette, t'as eu la chance de voir au cinéma le film Hereditary d'Ari Aster.
Oh yeah!
Qui est considéré un peu comme... c'est un peu, je pense, le film d'horreur, on va dire, avec du cachet artistique indie cred de l'année, distribué par A24, qui met en vedette Tony Collette, qui, selon certains, devrait lui permettre d'amasser une nomination aux Oscars, mais on n'en parlera pas de suite. Alors, Hereditary, Rémi, est-ce que c'est de l'esbrouf et du marketing, ou est-ce que le hype is real?
Non, the hype is real, puis en plus, il y a beaucoup de surprises, tu sais, même si vous avez vu la bande-annonce qui est assez angoissante, puis qui laisse pas trop... qui en dit pas trop sur la trame narrative, écoutez, lisez pas de review puis rien, allez le voir à froid là, c'est vraiment une belle surprise, c'est tout un exercice de mise en scène puis de construction sonore qui est vraiment impressionnante, puis tu sais le indie cred là, comme tu dis, le horror indie cred de l'année, il y en a toujours un à chaque année, puis moi je m'attendais à ce que ça soit A Quiet Place avant qu'Hereditary sorte. J'étais un peu déçu à ce niveau-là en fait de A Quiet Place. Je trouvais que le film, on en avait parlé là, mais je trouvais que A Quiet Place se prenait trop au sérieux pour ce qu'il donnait au final, parce qu'au final ça restait qu'il y avait beaucoup de jumpscare, il y avait énormément de jumpscare dans le film, il y avait beaucoup de décisions connes de personnages et de moments bâtis juste pour avoir une scène de tension ou d'action. Qui faisait pas de temps avancer l'histoire, qui était juste des scènes de tension pour des scènes de tension, que j'ai trouvé un peu facile dans A Quiet Place pour ce qu'il nous promettait. Mais Hereditary remplit amplement ces fonctions-là. Puis, tu sais, c'est pas un film complexe, disons ambitieux dans ses setups, là, de toutes ses setups, mais c'est tellement maîtrisé que oui, là, les comparaisons, là, c'est l'exorciste de cette année. Ça, je suis plus d'accord de le donner qu'à un Quiet Place, parce que c'est tout dans les tensions, dans ce qui n'est pas révélé sur les personnages, dans l'espèce de construction du film qui est peut-être pas standard. Pour résumer vite l'histoire, en fait, c'est au début du film, la grand-mère d'une famille décède. Une grand-mère qui avait une vie un peu assez privée, on sait pas trop exactement ce qu'elle faisait, mais elle avait des amis étranges. Sa fille savait plus trop, était rendue où, il l'avait mis dans un hospice, elle est en train de perdre la tête. Puis sa petite fille, donc en fait, il y a la grand-mère, il y a sa fille, et elle a deux enfants. Elle a un garçon qui est genre 18 ans environ et une petite fille de 11-12 ans. Puis cette petite fille-là est vraiment weird. Si vous avez vu la bande-annonce, là, elle ramasse des animaux morts puis elle claque de la langue quand elle dessine. C'est bizarre dit le même, mais si vous voyez le film, c'est vraiment creepy. Ah,
elle est donc même bizarre, elle claque de la langue.
Et puis ça, c'est comme juste la base de la prémisse. Puis pour vrai, je peux comme pas aller baver plus loin que ça parce que c'est un peu les surprises qui se construisent puis les gros revirements de situation, réactions de personnages aussi qui sont assez surprenantes puis qui sont assez basées dans une grosse sortie comme ça. C'est vraiment vraiment le fun. Il y a une bonne dose de surnaturel, de la mythologie démoniaque et de spiritisme. Ça utilise des procédés d'horreur, mais ça le fait tellement bien que ça marche vraiment bien. Puis il y a pas de temps de jumpscare, puis c'est ça que j'apprécie énormément de ce film-là, c'est que ça a réussi à donner foi dans le dos avec des build-up sonores, mais pas de jumpscare, pas de saut là, du tout tout le long du film. Puis ça marche tellement bien, là. Il y a des scènes choc que vous allez vous rappeler pendant longtemps. Moi, c'est une grosse recommandation, surtout dans une salle de cinéma, là, c'est vraiment le temps d'aller le voir, là, il va sortir de l'affiche sûrement sous peu, là, donc jetez-vous dessus avant que ça quitte l'affiche, parce que c'est fait pour voir dans un cinéma où t'as l'ambiance 360, puis complètement dans le film.
Ouais, puis tu sais, des films d'horreur, là, quand quelqu'un a peur à côté de toi, des fois, c'est ça qui te fait peur, fait que tu sais,
mais j'ai fait une gaffe, j'étais allé un mardi, là, puis... Je me suis rappelé que... Ok, je suis rendu snob un peu, là, je pense. Là. Puis c'est correct, le gars, je le sais.
Ah,
là.
La plèbe qui va au cinéma le mardi.
Pour vrai, là, genre...
Ils sont prêts à aller se payer des billets plein prix.
Mais ça, ça me dérange comme moi à cette heure de me payer un billet plein prix puis d'avoir de ne pas avoir genre le dos dans l'arrière de moi qui mange des nachos puis la fille à côté qui sort son téléphone pour texter au milieu du film là. Tu sais, dans un film comme Hereditary là, pour vrai le 7$ que j'aurais payé de plus, je serais resté dans le film pas mal plus tout le long là. Mais en tout cas, ça c'est vraiment first world problem là, c'est le gars là qui mais tu sais, quand le cinéma, c'est ta passion, pis tu sens la poutine du dos d'à côté pendant que t'essaies d'écouter un film vraiment... Tu sais, c'est un film d'ambiance, là. Pis là, je dis ça, pis c'est parce que j'ai fait un programme double, pis après, j'étais allé voir The Incredible 2, pis il y avait du monde qui gossait autour, mais ça me dérangeait comme moins parce que c'était ça, tu sais, c'était... Mais
c'est Diary Story, là...
Hey, il y a un gars, là, il y a un bout, le public a ri parce que... Il y a un méga silence, là. C'est un moment ultra choc dans le film, là. C'est genre un dream sequence vraiment angoissant. Spoiler, il y a un dream sequence à Mané, il y en a plein en fait, là. Mais il y a un dream sequence, pis c'est silence complet. Pis le gars en arrière de moi s'est ouvert un sac de chips. Mais la salle est pleine, là, tu sais. Pis genre, en plus, les chips au cinéma, il y en a, tu sais, c'est plus du popcorn que le monde prenne, ça fait un peu moins de bruit. Mais le gars décide d'ouvrir son sac là, au moment où c'est. Silence complet dans la salle. Puis là, le monde se sont mis à rire, mais c'est comme Chris, ça désamorce tellement l'hostie de silence qui est dans le film. Hey, man! Puis genre, il y a un gars à côté de moi qui s'est mis à pitcher du popcorn. C'était comme, tu sais, je peux-tu checker mon film en paix, là? Puis là, je suis comme, oh, c'est mardi, hostie que j'aille ça, là. J'aurais dû aller voir Incredible 2 puis crisser mon camp.
Tant qu'à man!
On est tellement rendu un podcast bourgeois entre ça puis entre Pascal je suis avec le réalisateur à Buenos Aires là,
mais moi, je me suis aperçu que j'ai vieilli quand j'ai commencé à prendre des cafés au cinéma là. T'sais, au lieu de prendre un coke là, je vais prendre un café Tim Hortons là, puis je vais m'asseoir dans ma salle avec des fois un muffin ou un bang puis je suis comme calisse que j'ai vieilli là. J'ai plus le gros popcorn
tant qu'être là-dessus moi aussi me confesser d'une affaire. Moi c'est le forum le jour la semaine, man. Je suis pas capable. C'est rendu que j'y vais plus le jour, la semaine. Puis là, ok, ça va vraiment sonner croche, mais là, on est à 1h01 dans le podcast. Ceux qui nous écoutent encore, c'est ceux qui nous écoutent depuis le début. Là, fait que je pense pas qu'on va être trop. Ça va pas être trop retenu contre nous, là. Mais c'est beaucoup plus des personnes âgées, qui y vont à cette heure-là.
Et nous, ils écoutent pas des podcasts, eux autres. Ils écoutent pas de podcasts.
Ils parlent tout le temps. C'est l'enfer. Hey, j'avais été voir Carol à m'amener à cette heure-là, là. Pis là, tu sais, c'est ça, là, man. Moi, je suis comme, je peux-tu enjoyer mon film de l'année?
Enjoyer mon film
là,
de l'année.
Toutes les fois qu'il y a un peu de tension sexuelle, là, tu sais, pis un peu des moments, là, genre, olé olé, là, tu sais. Mais, tu sais, toujours beaucoup dans le silence, pis très gracieux, genre, dans Carol. Mais là, il y avait tout le temps du monde qui était comme, ah, ils vont s'embrasser. Ah, ils sont embrassés. Là, t'es comme, man, pour vrai, sérieusement, là. Fait que, en tout cas, regarde. J'ai dit ça comme ça, mais ouais, le forum de jour la semaine, là. C'est pas évident. Fait qu'en tout cas, mais, on aime le cinéma. En fait,
moi, j'ai pas de problème. Moi j'aime beaucoup les spectateurs et continuer à aller au cinéma puis de permettre à l'industrie de bien se porter. Ouais.
Mais c'est juste que le monde qui va le mardi, là.
Non, mais attends un peu. Mais c'est vrai, je vais rattraper la balle au bon. Le cinéma ne mourra jamais pour la simple et unique raison qu'il reste que c'est pour ça qu'on y va.
On y va
aussi pour partager, tu sais.
Ouais, mais reste que le monde qui va au cinéma le mardi, là, il y en a beaucoup qui vont le mardi parce qu'ils iraient pas le reste de la semaine. Non, mais c'est un peu comme le monde qui sort à la journée blanche parce que le reste de l'année, ils iront pas à Place des Arts faire des activités, mettons, là.
La nuit blanche.
Mettons, le monde qui va au cinéma le mardi, c'est comme le monde qui sort au centre-ville à la nuit blanche, là. Ils sont comme, bon, il y a des affaires gratis, là, on va aller faire des...
Mais là, maintenant, je te lance une curveball, mais t'es conscient que toi aussi, tu y vas au cinéma le mardi, Rémi.
Ben, là, je suis allé, là. Hey, pour vrai, ça faisait longtemps, puis j'ai fait comme, oh non. Tu sais, je rentre, là, puis il y a full de monde, là. J'ai acheté mes billets d'avance au moins, puis là, j'arrive dans la salle, puis là, on rush à se trouver une place, là. Tu sais, puis c'est comme, j'étais comme, c'est Hereditary, là. Tu sais, ça fait une couple de semaines qu'il est à l'affiche. Ben non, la salle est pleine, puis t'as des gars qui s'ouvrent des sacs de chips dans le silence, puis qui comprennent pas, là.
Mais Rémi, revenons sur le cinéma. Fait qu'il y a des dream sequences, puis tu me dis que c'est majoritairement silencieux. Ça me parle vraiment beaucoup, parce qu'en fait, là, je suis en écriture d'un nouveau projet, puis je voulais vraiment. Il y a deux ponctuations, un peu plus de rêve. Puis ça, autant des fois, ça me gosse des scènes de rêve que des fois, ça peut être vraiment bien fait. Tu sais, je veux dire. Puis moi, c'était plus, mettons, les scènes de rêve dans Event Childhood de Tarkovsky qui m'inspiraient, où il n'y a presque pas de son. Tu sais, parce que dans les rêves, c'est vraiment. C'est très visuel, un rêve. Puis je contemplais sérieusement l'idée de faire des scènes de rêve complètement muettes, en fait.
Ouais, ouais.
Ou peut-être juste avec la musique, avec ça, diégétique, tu sais, des trucs un peu planants, tout ça, mais. Ou carrément muet, là, genre. Est-ce que ça va là ou est-ce que c'était juste parce qu'il y avait un moment de silence dans le rêve?
Hein? C'est plus du silence, mais tu sais, c'est bien utilisé, c'est quand même très réfléchi, là. C'est pas fait pour faire des jumpscares, là. C'est vraiment des moments de tension qui laissent planant, où ils utilisent des silences au même niveau qu'ils vont utiliser un drone ou ils vont utiliser de la musique, là. C'est vraiment bien fait, c'est bien dosé. Okay. Là,
Puis dernière chose, c'est parce que j'avais lu un peu une entrevue avec Ari Aster, le cinéaste, quand même, son premier long métrage de fiction. Puis il disait, tu sais, c'est le premier à être hyper surpris là, du succès du film parce qu'il a vraiment crinqué la note, là, le malaise. Ouais. Il l'a vraiment bâti, tu sais, sur l'angoisse, mais pas de l'angoisse qui est trendy, tu sais, de l'angoisse qui rend inconfortable finalement. Fait qu'il. Il dit, il pensait vraiment pas avoir un hit entre les mains, là, du tout, du tout, du tout. Là, ouais, il l'a jamais conçu sur ce moule-là. Donc, comme quoi, hein, des fois, des belles surprises.
Ouais, puis tu sais, je peux juste souligner, là, mais je dirais pas, je vous promets, il n'y a pas de spoiler, je vous dirai ce qui se passe, mais la fin est très particulière. Mm. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça, là, parce que je m'attendais jamais à ce que ça aille là. Mais c'est vraiment particulier de la façon que c'est tourné, l'idée de la fin. Puis, tu sais, je serais vraiment curieux, là, s'il y en a qui écoutent le podcast, qui veulent laisser un commentaire sur le podcast, sur notre page, mais je serais vraiment curieux de savoir qui l'a aimé, qui l'a pas aimé. J'avais entendu du monde qui ont vraiment pas aimé ce qu'ils ont fait. Tu sais, c'est un truc assez surprenant, un peu à la, tu sais, Florida Project, mettons, où tu fais comme,
okay, ouais.
What the fuck, que ça s'en va là, tu sais, ça dérape un peu, mais moi, c'est des fins que j'aime beaucoup parce que ça ressemble vraiment pas à la fin que tu voulais que ça soit, mais.
Okay. Fait que la petite fille finit à Disneyland.
Ouais, c'est ça. Ouais. La petite fille est à Disneyland, puis elle court en accéléré sur un handicap.
Nice,
non, non,
nice.
Mais en tout cas, mais je vous laisse checker ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aimais ça.
Et puis d'ailleurs, juste un petit mot pour souligner, parlant de films d'horreur indie, tout ça. Ben, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est relié avec Blumhouse Productions. Il y a la fiche de Glass qui est sortie. Donc, conclusion de la trilogie de M. Night Shyamalan, amorcée avec Unbreakable et continue avec Split.
Ouais.
Ça va sortir en 2019. Très hâte de voir ça. Si on m'avait dit il y a 5 ans que j'attendrais plus le prochain film de M. Night Shyamalan que de Nolan, j'aurais dit « T'es-tu malade? » Mais force est de constater que, je sais pas, Shyamalan a comme repris son groove, I guess.
Hey, puis je sais qu'on est sur la fin, là, mais moi, je voudrais juste accrocher vite, The Incredible 2, là.
Mm-hmm.
Genre une minute, là, mais je veux juste vous dire que moi, ça a été un méga coup de cœur, puis j'allais pas reculons, mais je m'attendais pas à triper à fond, là, parce que c'est un autre truc de super-héros, puis on dirait que, tu sais, on en parle, je pense, aux deux podcasts, là, puis aux deux podcasts, je dis que je suis tanné de voir des affaires de super-héros,
mais
ça ressemble à aucun film de super-héros de Marvel, ou de DC, ça a vraiment son style, ça emprunte beaucoup plus au cinéma de science-fiction des années 50, il y a des références, là, à un moment donné, il y a genre une pancarte avec Dementia 13 de Francis Ford Coppola dessus, qui est son premier film qu'il a fait dans les années 60 avec Roger Corman, tu sais, il y a des références vraiment obscures à des trucs de sci-fi. Fait que c'est comme, ça a un ton tellement le fun avec la musique de Michael Giacchino crinqué à fond, là, tu sais, le gros soundtrack qu'il y avait avec un big band, là, ça sonne là, tellement gros, puis tu sais, c'est après qu'on ait eu Justice League où la team de super-héros travaille juste jamais ensemble dans le film, attendent juste de se faire sauver par Superman, ben là, t'as l'ultime film où tout le monde travaille ensemble, tu sais, c'est un film collaboratif de super-héros. Puis l'héroïne dans le film, c'est la mère dans celui-là. Tu sais, je veux dire, le papa, il a son side. Les enfants, ils ont leur feature. Ils ont tous leurs moments. Mais celle autour de qui ça tourne le plus, c'est la maman. Puis c'est le fun parce que c'est un film de super-héros féminin. Tu sais, Marvel, ils osent pas en faire. Puis gosh, ben là, il y en a un, là. Puis il marche super bien. Tu sais, il y avait eu Wonder Woman avec DC, mais sinon, il y en a presque pas. Puis. T'sais, c'est l'histoire de Elastigirl, c'est vraiment cool, là, c'est vraiment bien fait. Mais c'est vraiment, j'avais une excitation de gamin là, durant le film. Là. J'étais vraiment, vraiment content tout le long. Vraiment primé, là, ça craint, là, C'est, ça arrête pas une seconde, c'est ultra rythmé, les visuels sont hallucinants comme Pixar savent le faire. Puis le short avant, comme toujours, là, le short de Pixar, il était spécialement très bon. Celui-là, c'était la vie d'un petit dumplings. C'est un petit dumplings qui prend vie, puis il y a sa maman chinoise qui essaie de l'élever, puis elle le regarde grandir. En tout cas, vous le découvrirez en allant le voir, là, mais c'est vraiment solide. Là, c'était un super beau programme ce soir-là.
Ben, moi, je vais finir en juste Rémi en citant, parce que là, je me suis ramassé sur la page IMDB pendant que j'écoutais de Incredibles 2, puis la user review 3 étoiles sur 10 de Matthew Devil Murdoch. Je vais te la lire.
Ok.
Not much to say, it is just boring, and I have watched Incredibles 1 so many times since I was 10 years old, never got bored. This movie was boring and had too many weak characters. The villain twist was very obvious, and the cringy SGW moments ruined the feel of the movie. Boring.
My God! Fait que... on n'a pas vu le même film, là, je pense. Là. Le méchant, le twist, c'est effectivement assez prévisible, mais je pense que tu y vas pas pour ça. Là, les personnages ont chacun une belle évolution. Pour moi, il y a des belles scènes d'action, des beaux retours. Honnêtement, j'ai pas vu Incredibles 1 depuis un méchant bout. Fait que je pourrais pas comparer tant que ça les deux, mais... Je boring. Sais pas, mais moi j'ai trouvé boring! Boring! J'ai bon. Crié ça tout le long du film, mais j'ai eu du fun.
Boring. Boring. Bon, mais c'est sur ces belles paroles pertinentes qu'on va se laisser cette semaine. On va aller écouter la bande-annonce. <C'est> bon. On va écouter la bande-annonce du film Summer of 84 de Roadkill Superstar.
Boring.
C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Boring. Preferred targets appear to be males aged 12 to 16. It's a serial killer. The Cape May Chronicle received a letter from an individual calling themselves the Cape May Slayer. There's a serial killer on the loose. What else could possibly be this exciting? Incoming titties. 12 o'clock. Guys, Nikki Keshuba. Scientifically the perfect woman. Huh. Better view of my room than I thought. Sweet dreams. Emergency meeting. Treehouse. Now, Mackie is the Cape May Slayer. Mackie's a cop with a sick reputation. Wasn't counting on us. That's blood.
David.
Hey.
Guys, I'm freaking out, okay?
Relax. You look like you're 30. It's gonna be fine. Now go. You're gonna get caught either by Mackie or your dad.
I know I'm right about him.
That doesn't prove anything.
Are you with me?
I don't want anything bad to happen to you.
We're trying to save people.
Yeah, well, you're not.
Guys on station are gonna love this.
Just let it go.
Sorry again that you're grounded. Let's see if I can get you out of this house. No hard feelings.
You were wrong. You were wrong about everything.
Even serial killers live next door to somebody.